Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de 9NR3. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre « Athéna, tome 02 ». À la recherche de son pouvoir est une bande dessinée jeunesse écrite par Sibylline avec Frédéric Bagère et illustrée par Marie Voyelle. L'album s'inscrit dans une série qui revisite la mythologie grecque sous une forme scolaire, légère et humoristique, en suivant Athéna, une apprentie déesse encore en quête de ses pouvoirs. Le livre mélange vie de collège, apprentissage des codes mythologiques et aventures entre camarades divins, ce qui le rend accessible à un public adolescent et préadolescent. Son intérêt principal tient à cette combinaison entre références culturelles et comédies contemporaines. Les dieux et déesses sont traités comme des élèves ordinaires, tout en conservant leur aura légendaire. Ce tome 2 poursuit donc une logique de découverte progressive de la mythologie, en transformant des figures connues en personnages de fiction proches des préoccupations des jeunes lecteurs. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, une relecture scolaire de la mythologie grecque. Le livre propose une idée simple mais efficace, faire entrer les dieux grecs dans l'univers du collège. Cette transposition donne à la mythologie une forme immédiatement lisible pour un jeune lecteur, car les conflits divins deviennent des situations d'école, de camaraderie et d'apprentissage. L'intérêt du procédé ne tient pas seulement à l'humour, il permet aussi de désacraliser les figures antiques sans les vider de leur contenu culturel. Les références à Aphrodite, Arès, Hermès, Gaïa, Héphaïstos ou Osiris fonctionnent comme des repères qui aident à mémoriser les personnages et leurs attributs. Le résultat est un album qui sert à la fois de récit comique et de porte d'entrée vers un imaginaire classique, en rendant la mythologie moins intimidante et plus concrète. Deuxièmement, Athéna comme héroïne d'apprentissage et de découverte de soi. Le cœur du tome repose sur Athéna elle-même, décrite comme une apprentie déesse qui cherche encore son pouvoir. Cette situation crée un moteur narratif clair, l'héroïne n'est pas définie par une maîtrise totale, mais par incomplétude, qui la rend proche du lecteur. Le récit met en valeur l'incertitude, l'attente et l'exploration, trois éléments très pertinents dans un album pour adolescents. Plutôt que d'imposer une héroïne déjà toute puissante, le livre suit une trajectoire de construction identitaire. Cela donne du sens aux épisodes du quotidien, puisque chaque activité scolaire ou relation amicale peut devenir une étape dans la compréhension de soi. Le tome 2 n'est donc pas seulement une suite d'aventures, il prolonge une progression psychologique autour de la confiance, du potentiel et de l'émergence des capacités propres à Athéna. Troisièmement, un humour fondé sur le décalage entre grandeur divine et banalité adolescente. La force du livre vient aussi de son humour, fondé sur le contraste entre la grandeur mythologique et les petites préoccupations du quotidien. Voir des dieux en pleine adolescence permet de transformer des attributs légendaires en sources de comédie retard, relations de classe, réputation, comportement teint groupe, maladresse ou rivalité. Ce décalage n'est pas gratuit, car il donne une lecture très lisible des figures antiques. Les jeunes lecteurs peuvent s'identifier aux situations, tandis que les adultes perçoivent les clins d'œil culturels. Le comique repose donc sur une double adresse, il amuse par la situation elle-même, mais il amuse aussi par la réinterprétation des mythes. Ce mécanisme rend le livre dynamique et pédagogique sans avoir l'air d'un manuel, ce qui est particulièrement utile dans une bande dessinée destinée à faire découvrir un univers culturel complexe. Quatrièmement, une bande dessinée d'amitié collective plutôt qu'un récit de héros isolé, même si Athéna est le personnage central, le tome met l'accent sur la vie avec les autres amis, correspondants, camarades de classe et interactions de groupe. Cette dimension collective est importante car elle évite le schéma classique du héros solitaire. Le récit fonctionne plutôt comme un ensemble de relations où chacun contribue à l'équilibre narratif et à l'apprentissage commun. L'arrivée d'Osiris et la présence d'autres figures mythologiques élargissent le cadre au-delà du simple parcours individuel. Cela donne une tonalité de groupe qui correspond bien aux attentes d'un public jeune, souvent sensible aux amitiés, aux alliances et aux dynamiques de classe. En présentant le monde divin comme un espace social, l'album montre que la mythologie peut aussi parler de vivre ensemble, d'échange et d'adaptation, ce qui enrichit sa portée au-delà du seul registre fantastique. En dernier lieu, un support accessible pour découvrir des repères mythologiques sans lourdeur, l'album se distingue par sa capacité à faire circuler des contenus culturels réels dans une forme très accessible. Les références aux divinités et aux situations du mont Olympe ne sont pas traitées comme une leçon abstraite, mais comme des éléments intégrés à une intrigue ludique. C'est ce qui fait l'intérêt pédagogique du livre, il ne demande pas au lecteur de connaître la mythologie avant de commencer, mais lui donne progressivement des points d'accroche. L'association entre récit, humour et dessin facilite la compréhension visuelle des personnages et de leurs rôles. Dans une offre jeunesse déjà riche en adaptations mythologiques, ce tome se démarque par son ton intermédiaire suffisamment sérieux pour transmettre des repères culturels, suffisamment léger pour rester attractif il fonctionne donc bien comme lecture de découverte, de loisirs et d'initiation culturelle à la fois. En conclusion, Athéna, tome 02, à la recherche de son pouvoir conviendra surtout aux lecteurs jeunes, à partir du collège ou de la fin du primaire, ainsi qu'aux médiateurs qui cherchent une porte d'entrée vivante vers la mythologie grecque. Les adultes peuvent aussi y trouver un intérêt s'ils souhaitent accompagner une lecture jeunesse qui ne se contente pas de simplifier, mais qui transforme les références antiques en situations immédiatement parlantes. Son principal bénéfice est de relier culture classique et expérience adolescente sans tomber dans le cours déguisé ni dans la parodie pure. Le livre se distingue ainsi de nombreuses adaptations mythologiques plus linéaires. Il ne réduit pas les dieux à des silhouettes décoratives, mais les réinscrit dans un univers relationnel, drôle et cohérent. Cette approche rend la découverte des personnages plus mémorable, car elle associe chaque figure à un comportement, une ambiance et une dynamique de groupe. Pour un lecteur curieux, c'est donc à la fois une lecture divertissante et un premier pas efficace vers un imaginaire mythologique plus large. Si vous souhaitez soutenir Sibylline, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt!